Vous écoutez, on lit pour vous.
Kitsch QC, Mille et une nuits dans l'illusion d'autres pays. Un texte de Jean-François Nadeau paru le 4 décembre 2024 dans Le Devoir. Des années 1950 aux années 1980, partout au Québec, quantité de commerces kitsch, portés par des représentations fabulées de pays étrangers, ont poussé comme des champignons. Restaurants, bars, salons et clubs se voulaient tout à la fois exotiques et immersifs. Parés d'un exotisme de pacotille, ils invitaient le gros de la société à se plonger dans des représentations du monde auquel le cinéma, avide de clichés, avait prêté vie. La chaîne Historia en parle dans Kitsch QC, une série documentaire déclinée en 8 parties. Bienvenue dans des restaurants français thématiques ou des restaurants chinois aux lanternes et aux dragons en carton, en passant par les faux souks d'une Afrique du Nord de composition où des danseuses du ventre se donnent en spectacle tandis que les gens mangent à leur table. Bienvenue au royaume merveilleux du simili-faux et du simili-véritable devenu tout à fait fréquentable. Jean-Paul Grappe a dirigé 4 restaurants français à Montréal. À la veille de l'exposition universelle de 1967, il était venu en Amérique pour ouvrir un restaurant français de luxe baptisé le Concorde. Faïence de Limoges, couvert en argent, serveur en livrée, tout le tralala pour impressionner était de mise. En entrevue dans la série, il dit « J'étais fasciné par les Québécois qui attendaient 3 heures pour manger dans un restaurant, alors qu'en Europe, après 5 minutes, ils foutent le camp. Les décors avaient une grande importance pour les Québécois, se souvient Jean-Paul Grappe. Quand ils entraient dans un restaurant, pour eux, c'était la découverte d'un pays. Là, ils voyageaient. Après un moment seulement, ils regardaient le menu. C'est ainsi qu'a commencé la cuisine internationale à Montréal. Jusque-là, observe encore M. Grappe, il n'y en avait que pour la culture culinaire américaine du steakhouse. Très populaires, les univers thématiques vont même se transporter dans les centres d'achat. À la place Laurier, à Québec, le public pouvait, par exemple, se retrouver au milieu d'une suite de restaurants installés derrière de fausses façades normandes. Il est normal de forcer un peu le trait si l'on veut être compris et accepté pour ce que l'on est censé représenter, affirme l'historien Raphaël Weyland. Un Québécois qui ouvrirait un restaurant de poutine à l'étranger ne serait-il pas tenté de sacrer un peu plus qu'à son ordinaire, tout en portant une veste à carreaux dans le but de bien signifier ce qu'il entend incarner dans son commerce? Les restaurateurs qui proposent des décors asiatiques, moyen-orientaux ou autres entendent, selon un même procédé, suggérer un dépaysement, quitte à exagérer un peu. Pendant longtemps, ces établissements kitsch servirent de médiateurs culturels dans un rapport théâtralisé entre le Québec et le monde. Aujourd'hui, c'est assez important de retracer, de regarder et de reconnaître l'importance de ces lieux-là, explique Caroline Dubuc. En 2021, avec Roxane Arsenault, elle a publié un livre intitulé « Kitsch QC ». Leur ouvrage, gagnant d'un prix en patrimoine de la ville de Montréal, constitue le fondement de la série télé du même nom. La cuisine et la danse orientale. Voici France Hébert, connu un temps sous le nom de Souraya. Dans un restaurant marocain de Québec, elle incarnait une danseuse orientale. Pourtant, elle n'eut du Moyen-Orient pendant très longtemps qu'une connaissance plus que sommaire. Qu'importe, de longue date s'y attache une large partie de l'imaginaire populaire. On dit, au fond, qu'il est question du « sud », c'est-à-dire sans rien distinguer dans une sorte de grand fourre-tout. Bienvenue au El Morocco, restaurant-café Entertainment. Scène majeure des années 1940 et 1950 à Montréal, ce cabaret accueille les vedettes qui défilent dans un décor d'inspiration orientale. Alice Robbie y chante. plusieurs stars américaines de passage s'y font voir dans un univers pseudo-Afrique du Nord. La danseuse égyptienne Fazia Amir s'y produisait avant d'ouvrir elle-même, avec l'aide de la pègre, le club Sahara. Fazia Amir se présente, pour faire sa publicité, comme une des favorites du roi Farouk. Elle sera pourchassée par la ville de Montréal au nom d'une moralité de façade. Pour s'expliquer, elle danse devant un juge qui l'absout de tout reproche. Ce sont les débuts, au Québec, de ces restaurants qui proposent des « danseuses du ventre ». Comme l'explique la fille de Fazia Amir en entrevue dans le documentaire, le design et les allures du club de sa mère s'accordaient davantage à ce que les Nord-Américains projetaient sur ce monde nord-africain. Autrement dit, ces pays en format réduit où l'on s'invitait pour la soirée au coin de la rue ne sont que des espaces de représentation modelés à partir des images projetées par le cinéma à grand déploiement dans une démesure kitsch qui est la norme dans Kitsch QC. La plupart des lieux que donne à voir la série documentaire sont disparus depuis longtemps. Grâce aux documents d'archives, ils parlent encore. Ils disent quelque chose de la vision du monde d'une société qui ne demandait pas mieux que d'ouvrir grandes ses fenêtres, afin de prendre l'air. Boshra Manaï, docteur en études urbaines, l'explique bien. Cette façon qu'ont les restaurateurs de représenter le monde pour se vendre dit quelque chose par un effet de miroir de la société qu'ils servent. Le temps d'une sortie au resto, nous vivons un mythe, mais ça dit quand même quelque chose des représentations sociales et sociétales que nous avons les uns des autres. Pour les faire découvrir, Kitsch QC mise sur l'exploration des rapports culturels avec différentes communautés par l'entremise de ces institutions qui font parfois sourire. Nous voilà dans un pseudo-univers grec, italien, maghrébin et chinois, alors que tous ces lieux parlent, au fond, de l'évolution de la société québécoise. D'où vient cette passion pour ce qu'on appelle le kitsch, avec son côté exubérant, sans filtre, déjanté à force d'être libéré de ce qui tient le plus souvent lieu de normes? Du kitsch, la regrettée autrice Eva Legrand soulignait les séductions, les artisans de cette série aussi, à leur manière. Souvent les gens vont coller une étiquette péjorative au mot « kitsch », comme s'il s'agissait strictement d'une question de goût, de mauvais goût, explique Caroline Dubuc. Ils pensent autrement dit le kitsch en fonction de son côté quétaine ou cucu, comme on dit en québécois. Pour nous, c'est le contraire, dit Roxane Arsenault. On a vraiment une admiration pour ces lieux. Il y a comme un respect énorme qu'on a pour ces visions singulières qu'on peut définir aujourd'hui comme kitsch. C'était Kitsch QC, mille et une nuits dans l'illusion d'autres pays. Un texte de Jean-François Nadeau paru le 4 décembre 2024 dans Le Devoir.
Un viaduc à vaches pour protéger une piste cyclable. Un texte de Gabriel Bélan, paru le 21 novembre 2024 dans La Presse. La MRC de la Nouvelle-Beauce prend le taureau par les cornes et construira un boviduc, sorte de petit viaduc à bétail, pour empêcher les vaches d'emprunter une piste cyclable. La mise en place au printemps 2025 de cet ouvrage rarissime au Québec, signe la fin d'un litige qui durait depuis des années en Beauce. Le futur boviduc permettra aux vaches de passer de l'étable au pâturage sans croiser la piste. Les bêtes passeront au-dessus des cyclistes. Depuis au moins 10 ans, des élus beaucerons rêvent de transformer une ancienne voie ferrée abandonnée en piste cyclable. La véloroute de Dorchester doit relier d'ici 2026 deux importants tronçons du réseau local, la véloroute La Chaudière et la cycloroute de Bellechasse. Mais un petit tronçon de la piste de 16 km doit passer sur la ferme Laverdière et fils, directement entre l'étable et le pâturage. Pendant des années, les éleveurs ont fait part de leurs réserves aux élus. Ils craignent notamment que leurs vaches laissent des excréments et de la boue sur la voie et que des cyclistes se blessent ou encore que ceux-ci soient bloqués de longues minutes par le passage du troupeau. C'était comme avoir une épée de Damoclès au-dessus de la tête, illustre Chloé Gouin de la ferme Laverdière à Sainte-Enédine. Les 55 vaches du troupeau passent 4 fois par jour sur l'ancienne voie ferrée. Matin et soir, elles quittent leur pâturage et traversent l'emprise ferroviaire pour aller se faire traire dans l'étable. Il leur faut entre 15 et 45 minutes pour traverser la voie. Des trains n'ont pas passé ici depuis environ 12 ans, estime l'agricultrice. L'idée de voir soudainement passer des dizaines, sinon des centaines de cyclistes par jour, inquiétait les propriétaires de la ferme. Nos vaches sont environ 20 heures par jour dehors. Elles sont en dedans juste pour la traite. Le foin est dehors, tout est dehors. Elles sont dehors matin et soir, jour et nuit, dit-elle. L'ancien maire nous avait dit « Faites comme tout le monde et gardez les vaches en dedans. Ce n'est pas une possibilité pour nous. Les vaches ont tout le temps été dehors. Les vaches aiment ça. On ne veut pas arrêter. » Environ 13% des producteurs québécois de lait conventionnel envoient encore leurs vaches au pâturage. À Sainte-Enédine, il y a un autre troupeau qui sort. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Une solution venue d'Europe. Le projet de piste cyclable a aussi inquiété l'assureur de la ferme, raconte Mme Gouin. Si on est en partie responsable de quelqu'un qui se fait mal sur la piste, ça peut nous mettre à la rue. Les agriculteurs ont engagé une avocate qui a suggéré l'idée du boviduc. Les ouvrages de ce genre sont monnaie courante en Europe et permettent le passage sécurisé des bêtes. Cette solution a finalement été retenue par la MRC. Au Québec, on a cherché, mais on n'a pas trouvé de comparable, de traverse comme ça, explique la directrice du service d'aménagement et développement du territoire à la MRC de la Nouvelle-Beauce, Marie-Josée Larose. Un contrat de 457 761 $ vient d'être accordé à un entrepreneur pour la réalisation du passage et d'une courte section de 292 mètres de piste cyclable. Le coût global n'est pas uniquement pour la traverse de bétail, précise Mme Larose. La plupart des boviducs permettent aux bêtes de passer sous la voie principale. À Sainte-Enédine, pour diverses raisons, les vaches passeront par-dessus les cyclistes, lesquels devront traverser un large tuyau de tôle ondulée. Le boviduc doit être réalisé pour le printemps 2025, mais la cycloroute Dorchester ne sera pas inaugurée dans son entièreté avant 2026. La MRC doit encore finaliser 2 sections de la piste qui reliera Scott à Saint-Anselme. Pour la ferme Laverdière, il s'agit d'un dénouement positif. On pensait pouvoir s'entendre à l'amiable. On est des gens parlables. Mais on a dû se résoudre à prendre une avocate. On ne peut pas gérer une entreprise en se disant « tout devrait bien aller ». Il faut quelque chose de plus solide, note Chloé Gouin. L'agricultrice ne pense pas que les boviducs vont néanmoins pousser comme des champignons au Québec, où de nombreux champs sont traversés par des pistes cyclables. On a vraiment une situation particulière. On est vraiment proche de la piste. Ce n'est pas parce qu'il y a ça chez nous que tout le monde va en avoir. C'était Un viaduc à vaches pour protéger une piste cyclable, un texte de Gabriel Bélan, paru le 21 novembre 2024 dans La Presse.
Que faire avec des résidus de bière? Un texte de Mathieu Perrault, paru le 2 décembre 2024 dans La Presse. À Denver, en apprenant qu'au terme du processus de fabrication de bière, le houblon, l'orge et compagnie n'étaient pas totalement transformés en liquide, 2 étudiants ont voulu trouver quelque chose à faire avec les résidus. quelques années après avoir obtenu leur diplôme d'économie, les Californiens Jordan Schwartz et Dan Kurzok ont lancé Regrained, qui, avec l'aide du Département américain de l'agriculture, USDA, a inventé un processus industriel de production de farine à partir de la drèche, les solides issus du brassage. Après une demi-douzaine d'années de commercialisation, leur farine super grain sert maintenant à faire des pizzas, du pain et des muffins anglais. Nous voulons maintenant valoriser d'autres résidus alimentaires, a expliqué Lara Ramdin, chef de l'innovation chez Upcycled Foods, à la dernière réunion annuelle de l'Association américaine pour l'avancement des sciences, AAAS, en février 2024, au Colorado. Upcycled Foods est l'entreprise créée pour élargir à d'autres résidus, outre la drèche, la mission des deux fondateurs de Regrained. La farine de drèche est appelée supergrain parce qu'elle présente un taux élevé de protéines. Les pizzaiolis et boulangers qui s'en servent remplacent généralement 20 % de leur farine par supergrain. Madame Ramdin, qui travaillait pour des géants des produits de consommation comme Unilever et Molson Coors, a pour mission de poser les jalons de ce qu'on appelle la retransformation alimentaire, food upcycling. Il ne faut surtout pas que les clients aient l'impression d'acheter des produits fabriqués avec des restes de table, dit-elle. Alors, nous avons besoin d'établir une chaîne de traçabilité pour chaque produit. L'objectif ultime? Obliger les entreprises alimentaires à inclure une portion de retransformation dans leurs produits. Au Royaume-Uni, dit Mme Ramdin, les fabricants de plastique doivent inclure 30 % de recyclage dans leurs produits. On pourrait envisager à moyen terme que 10 % de toute la production alimentaire soit issue d'une réutilisation. Mais la partie est loin d'être gagnée. Dans le monde, la valeur des produits alimentaires issus de réutilisation devrait seulement progresser de 75 milliards de dollars en 2021 à 135 milliards en 2031. Le marché alimentaire, des fermes aux restaurants, dépassait 5 560 milliards en 2022, selon le Département américain de l'agriculture, USDA. Malgré tout, Lara Ramdin est optimiste. L'Agence de protection environnementale, EPA, vient d'inclure la retransformation dans sa stratégie de lutte contre le gaspillage alimentaire. Il nous a fallu seulement 2 ans de lobbying pour y arriver, avec une association que nous avons fondée en 2021. Recyclage. La retransformation alimentaire pourrait-elle débarquer au Canada? Ça pose des problèmes de traçabilité, mais on pourrait certainement avoir des programmes ciblés, répond Lara Ramdin. Le marc de café, par exemple, pourrait être transformé pour être utilisé comme compost ou potentiellement autre chose. La PME montréalaise Still Good produit de la farine à partir de la drèche comme Upcycled Foods avec supergrain. Upcycled Foods a été un pionnier, explique son PDG, Jonathan Rodrigue. Maintenant, ils veulent plutôt développer des marchés et des technologies et donner la production à contrat. Fondée en 2018, l'entreprise Still Good produit 1000 tonnes d'aliments retransformés par année et vient d'investir 5 millions pour quintupler la production. Selon M. Rodrigue, la production pourrait dépasser 100 000 tonnes d'ici quelques années. Nous sommes membres de l'Upcycled Food Association, signale-t-il. Nous sommes en train de voir avec eux comment adapter l'approche pour le Canada et le Québec. Ici, on travaille avec Aliments du Québec. Il est important de travailler sur tous les tableaux pour assurer l'avenir de la retransformation alimentaire. En savoir plus. 20% proportion de toute la nourriture vendue au détail aux États-Unis gaspillée par les consommateurs. Source USDA. 500 grammes quantité de drèche générée par 6 bières. Source Upcycled Foods. C'était Que faire avec des résidus de bière? Un texte de Mathieu Perrault, paru le 2 décembre 2024 dans La Presse.
Petit lexique de termes liés au cancer. Un texte commandité paru le 25 novembre 2024 dans La Presse. Le vocabulaire médical relatif au cancer est plutôt spécialisé. Plusieurs mots sont couramment utilisés, mais ce qu'ils signifient exactement n'est pas toujours bien compris. Afin de mieux cerner cette maladie et mieux comprendre les gens qui en sont atteints, voici quelques définitions de termes courants utilisés en oncologie. Cancer in situ. Cancer qui se trouve au stade initial de son développement. Autrement dit, les cellules cancéreuses sont encore confinées à l'endroit où elles se sont formées. Si la tumeur in situ n'est pas traitée, elle peut toutefois évoluer vers une forme infiltrante, beaucoup plus grave, et se propager aux tissus voisins. Chimiothérapie. Traitement qui repose sur l'administration de médicaments pour détruire les cellules cancéreuses présentes au sein de l'organisme ou pour les empêcher de se multiplier. Il peut être proposé seul ou être associé à une chirurgie, une radiothérapie, une hormonothérapie ou une immunothérapie pour améliorer les chances de guérison des personnes atteintes d'une tumeur maligne. Ganglion sentinelle. Premier ganglion lymphatique d'un groupe ganglionnaire, susceptible d'être envahi par les cellules cancéreuses étant situé au plus près de la tumeur maligne. Sa biopsie permet de connaître le degré d'extension de la maladie et d'adapter les traitements en conséquence. Cette technique d'analyse s'avère notamment utilisée pour le cancer du sein et le mélanome, un type de tumeur maligne de la peau. Grade. Classification histologique permettant d'évaluer le degré de malignité de la tumeur et de prévoir comment elle se développera, pour ainsi mieux anticiper l'efficacité des traitements et prédire l'issue de la maladie. Elle tient compte du niveau de différenciation des cellules cancéreuses, de leur vitesse de croissance et de la probabilité qu'elles se propagent à de nouveaux endroits. Le grade va généralement de 1 à 3 ou 4, selon le type de tumeur maligne. Plus le chiffre se révèle élevé, plus la croissance des cellules cancéreuses s'avère rapide et plus le risque de propagation est élevé. Hormonothérapie. Traitement qui consiste à ajouter, à supprimer ou à bloquer des hormones pour ralentir ou stopper la croissance des cellules cancéreuses. Certains cancers, ceux du sein ou de la prostate notamment, sont en effet hormonosensibles ou hormonodépendants, c'est-à-dire que la croissance de leurs cellules est activée par une hormone produite par l'organisme. Immunothérapie. Traitement biologique qui vise la stimulation du système immunitaire pour lutter contre le cancer. Il agit principalement sur les lymphocytes B et T afin de les aider à trouver et à détruire les cellules cancéreuses. Il peut être utilisé seul ou en combinaison avec d'autres immunothérapies. Il en existe plusieurs types. Ou encore être associé à des approches conventionnelles comme la chimiothérapie et la radiothérapie. Métastase. tumeur maligne formée à partir de cellules cancéreuses qui se sont détachées d'une tumeur primitive et qui ont migré de leur emplacement initial vers une autre partie du corps via la circulation sanguine ou lymphatique. Lorsque des métastases se forment dans l'organisme d'une personne atteinte d'un cancer, la maladie devient plus difficile à soigner. Radiothérapie. Traitement qui consiste à utiliser des rayons à haute énergie, comme des rayons X ou gamma, pour endommager ou détruire les cellules cancéreuses. Plusieurs techniques de radiothérapie existent. Certaines sont administrées par voie externe, la radiothérapie guidée par l'image notamment, et d'autres par voie interne, la curithérapie avec implant, par exemple. Rémission. Diminution ou disparition des signes et symptômes du cancer à la suite des traitements. La rémission peut être temporaire ou permanente. De manière générale, plus elle se prolonge, plus il y a de chances d'être définitivement guéri. Stade. Façon de classifier l'étendue du cancer dans le corps et d'établir la possibilité d'en guérir ou non. Pronostic. Le stade est basé sur la taille de la tumeur, la présence de cellules cancéreuses dans les ganglions lymphatiques et la propagation de la maladie à d'autres parties du corps. Pour la majorité des cancers, 5 stades, numérotés de 0 à 4, existent. Le chiffre 0 correspond généralement à une tumeur dite in situ, précoce, alors que le chiffre 4 fait référence à une extension plus large dans l'organisme sous forme de métastase. Tumeur. Masse de tissu nouveau qui est formée par la multiplication excessive et incontrôlée de cellules. Une tumeur peut être bénigne, c'est-à-dire composée de cellules normales qui ressemblent beaucoup au tissu à partir duquel elle s'est développée, ou maligne, soit constituée de cellules atypiques qui se multiplient de manière anarchique et envahissent les tissus et vaisseaux avoisinants. C'était Petit lexique de termes liés au cancer. Un texte commandité paru le 25 novembre 2024 dans La Presse.